I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on résume toute l'actu tech internet. Non, ça c'est le rendez-vous tech où on résume les actus du jeu vidéo, que ce soit les PC, les consoles ou tout le reste. Et aujourd'hui, bien sûr, on va beaucoup parler de consoles puisque ça y est, nous entrons dans la nouvelle génération. On va peut-être débattre de qu'est-ce que c'est que la nouvelle et qu'est-ce que c'est que l'ancienne génération aujourd'hui qu'on est un petit peu entre les deux. Avant ça, je vais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, c'est Manapani, Olivier Bouvert, Thomas Dumazer, Thomas Bernard, Raphaël Ramponi, Jérôme Nadir, Olivier Géandel, Fabien Carré, Christophe L, Daddy Gain et les producteurs qu'on remercie à tous les épisodes, Bazou42, Lancelot Davizard, Chulrac, pardon. Merci à tous les trois de produire l'émission. Sans vous et sans tous les autres patriotes, elle n'existerait pas. Donc, des bisous spéciaux à vous aussi. Mouah. Je suis donc Patrick Béja et aujourd'hui, on reçoit deux invités de talent et de charme. La dernière fois, je disais ça, c'était l'un de talent et l'autre de charme, mais là, les deux ont les deux. C'est d'abord Escarina. Comment ça va, Escarina ?
Salut Patrick, ça va très bien. Je suis toujours accompagnée de ma fidèle acolyte de 2 mois et demi qui est en train de dormir pour moi et qui aura, je n'en doute pas, un avis très pertinent sur l'actualité vidéoludique de ce mois-ci.
Écoute, on est heureux que tu commences à lui inculquer les bonnes valeurs, tu vois, à l'écoute de podcasts en live sur Twitch. Très très bien. On a également Aymeric qui nous rejoint après quelques mois d'absence, ou enfin tu étais là il y a un an, quelque chose comme ça, tu viens de temps en temps.
À peu près.
Je suis toujours heureux de te recevoir, ancien de Gameblog, aujourd'hui chez jeuxvideo.com. Comment ça va Mimic ?
Bah écoute, ça va, toujours un plaisir de venir te voir, de venir vous voir. Merci pour l'invitation.
Mais merci de l'avoir accepté, d'autant plus que tu as un petit peu joué à Assassin's Creed Valhalla, sur lequel tu pourras nous donner tes impressions. On a plein de choses qu'on va couvrir. D'abord, la news la plus importante de la semaine, Patrick a reçu sa Xbox, Xbox Series X. Elle est allumée, elle est branchée. Bon, vous ne pouvez pas la voir sur le live parce qu'elle est par là-bas. On va aussi parler de différents jeux qu'on a testés. Il y aura Assassin's Creed Valhalla, comme je le disais, bien sûr. Il y a Destiny 2, à côté duquel je ne peux pas passer, sur lequel j'ai passé quelques heures déjà, Tetris Effect Connected, dont j'aimerais vous parler. Et je me demande si je ne vais pas commencer avec ça, tiens. Avant même de vous parler de la console et de la Xbox en tant que machine, je crois que Tetris Effect Connected, c'est un titre qui va passer un petit peu sous le radar, parce que ce n'est pas le plus gros et le plus connu. Mais ça serait vraiment dommage de ne pas de le rater complètement, quoi. Parce qu'il y a un mode en particulier qui propose un... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tetris Effect, c'est une version de Tetris qui est, focalisée sur les effets sonores et visuels de Tetris pour en faire une expérience peut-être un petit peu plus enivrante. C'est pas juste le fait de faire tomber des... Ouais, c'est vraiment ça, c'est un flow, on rentre dans un flow, on rentre dans la zone Tetris, et c'est le Tetsuya Mizoguchi qui, si je ne m'abuse, c'est lui qui avait fait Lumines, non ? Il est ce type de jeu. Et donc, il y a à la fois le jeu lui-même et puis toute une ambiance qui est créée par l'expérience audio-sensorielle du jeu. Et le jeu existait déjà sur PlayStation 4. Il existait aussi sur PlayStation VR, et c'était l'un des éléments les plus importants du jeu, bien sûr, parce que le truc vous entourait complètement en réalité virtuelle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le mode Connected, et le mode Connected qui est un mode multi, où on va jouer en un contre un ou en combat, PVP, on va dire, ou alors, et tout ça, en fait, tout ça, je m'en fous un peu. Tous les éléments précédents dont je viens de vous parler, je m'en fous un peu. Ce qui est vraiment magique, c'est le mode Connected, et le mode Connected en co-op, et pas en joueur contre joueur. Ça donne un sentiment, alors que je vous explique un petit peu comment ça marche. Il est exclusif à la Xbox Series X pendant 6 mois, je crois. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on joue à 3 et on a chacun notre petit écran de Tetris et on joue contre un ennemi contrôlé par l'ordinateur, plus ou moins fort. Et donc, on envoie des lignes à l'ennemi quand on réussit à en compléter et l'ennemi nous envoie des malus quand il réussit, lui, à compléter ses lignes. Et ces malus, ça prend différentes formes. Hein. Il y a des trucs assez originaux, mais c'est des malus de Tetris. Sauf que, de temps en temps, en plus du fait qu'on voit les autres jouer à côté de nous pour essayer de battre l'ennemi, on a de temps en temps la zone, qui est une sorte de coup spécial, dont on a un maître qui monte, une jauge qui monte, et quand elle est remplie, on peut le déclencher. Et à ce moment, les trois écrans de Tetris, les trois zones de jeu, se réunissent en une zone de jeu. Une grande zone de jeu qui fait donc 3 fois la largeur. Et on joue tous les trois en même temps sur cette zone de jeu, chacun notre tour. Donc on a nos pièces qui continuent à tomber. Et chacun notre tour, on doit la faire tomber, on doit la placer. Et on voit complètement ce que sont en train de faire les autres joueurs. Ce qui fait que c'est une sorte d'expérience collaborative, comme vraiment on en a. Enfin, moi, j'en ai rarement eu. C'est extrêmement étrange parce que on a tout cet univers sonore et visuel qui nous enveloppe déjà à la base. Et puis en plus, cette collaboration où on voit ce que font les autres et on dit « Ok, je comprends, sans parler, hein, mais je comprends que toi, tu vas mettre la pièce là, moi, je vais la mettre ici et j'attends mon tour pour la mettre. » Et on se bat pour essayer de vaincre cet ennemi. C'est une expérience coop. Comme vraiment, j'en ai jamais vu, et le sentiment de, comment dire, en anglais, je dis le sentiment de togetherness, le sentiment d'être ensemble est magique.
Dans vraiment, la galère.
Pardon, ensemble dans la galère, non, mais c'est même pas, en fait, c'est hyper bienveillant, en fait. C'est même pas une galère. Enfin bon, après, il y a des niveaux qui sont plus difficiles que d'autres. Là, c'est relativement, c'est pas que c'est, les premiers niveaux sont relativement faciles, mais c'est pas dans la galère, c'est pas le sentiment de devoir lutter, en tout cas au début, c'est juste le sentiment d'être ensemble et de collaborer ensemble. C'est vraiment ce sentiment de togetherness. J'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai jamais vécu un truc comme ça, ou rarement vécu un truc comme ça dans un jeu vidéo. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait des jeux en coop.
C'est peut-être parce que c'est ensemble, tous dans la même direction. Tu sais, quand t'es dans un jeu d'action, etc., t'as tout le monde qui se barre à droite, à gauche, etc. Et finalement, dans un jeu comme ça, en fait, là, tout le monde est un petit peu à la même enseigne exactement, et on combat tous la même chose, en fait, sur les mêmes lignes, en fait. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je comprends très bien ce que tu veux dire, en fait. Il y a quelques autres jeux où j'ai eu cet effet-là. Et effectivement, pour moi, c'est très clair ce que tu dis, pour le coup.
Bah, c'est vrai que même dans les jeux coop, souvent, c'est « Ah bon, toi, tu vas par là, toi, tu vas par là, et on a du mal à collaborer. » Là, c'est même encore plus qu'on est tous ensemble, c'est vraiment, on a chacun notre tour, donc c'est pas que les gens vont se marcher dessus, bon, on peut troller un peu si on veut, mais c'est vraiment, enfin moi j'ai pas eu ce problème, et c'est plus qu'on travaille ensemble sur le même truc, c'est qu'on est en train de faire la même chose, de construire la même chose. C'est pas que chacun construit de son côté, c'est qu'on est tous en train de... c'est comme si quelqu'un avait 3 bras et qu'on ait chacun 1 bras. Je sais pas, c'est le meilleur moyen que je peux l'expliquer.
C'est comme quand tu joues avec des randoms et que tu joues avec une équipe que t'as constituée toi-même où tout le monde va dans la même direction. Je pense que l'écart, il est là, en fait.
Peut-être un peu, ouais. C'est peut-être un peu ça. Et c'est sans parler, sans aucune communication autre que ce qu'on a à l'écran, ce qu'on voit à l'écran. Bref, c'est un jeu dont je suis sûr qu'il va vraiment passer un petit peu inaperçu. Et moi, je trouve que ça serait dommage, d'autant plus qu'il est inclus dans le Game Pass. Donc, si vous avez récupéré une Xbox Series X, eh ben, il n'y a pas de raison de se priver, quoi. Vous pouvez y aller.
Un peu l'opposé de Tetris 99 au final, quoi.
Complètement, ouais. Complètement l'opposé. Et c'est marrant comme Tetris, qui est le jeu séminal, c'est le jeu vidéo finalement, possiblement le meilleur jeu vidéo de l'histoire. En tout cas, il est dans cette compétition. Avec quelle, comme on dit dans la chatroom, avec quelle inventivité ils réussissent à trouver des nouvelles choses. C'est vraiment enthousiasmant. Donc testez-le. Et si vous avez le Game Pass, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà pour Tetris Effect Connected. Je voudrais aussi parler un tout petit peu de la console elle-même, de la Xbox.
Est-ce qu'elle fume, la tienne?
C'est vrai qu'on a vu... On a vu des fakes. En fait, c'est des gens qui utilisaient des vapoteurs pour mettre de la fumée, enfin de la vapeur d'eau dans la console et faire genre elle fumait. Par contre, il semblerait que certains modèles, enfin certaines personnes aient des problèmes avec le lecteur de disque qui ne.
Oui, je confirme.
Ouais. Qui fonctionne pas super bien. Moi, j'ai même pas de disque Xbox, donc si je dois en avoir
une
un ou deux,
route,
mais
voilà.
Mais la console elle-même...
Quel type de problème? C'est vraiment des problèmes de lecture ou c'est des problèmes mécaniques
Des problèmes mécaniques, elle n'accepte pas le disque en fait, elle ne le laisse pas rentrer dans son lecteur.
C'est un ou petit alors peu, quand il est rentré, elle ne le laisse pas ressortir non plus.
Ah, il y a ça aussi. Oui. Bon, au moins tu peux jouer au jeu qui est dedans. Si
ce n'est pas une console facile.
Pas forcément en fait, la console s'allume peut-être. Enfin, il y a des cas où la console ne s'allume pas, en fait. Par contre, t'as un petit truc sous la console où tu peux éjecter le disque, en fait. T'as un petit bouton.
Ah, d'accord. Donc, on peut mécaniquement pousser le truc pour le faire sortir. moi, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci pour connecter ma manette. Quand je l'ai connectée la première fois en stream il y a deux jours, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai déplacé ma console à côté de ma télé et la manette s'est déconnectée et impossible de la reconnecter parce que quand j'appuyais sur le bouton de connexion sur la console, il ne faisait rien, en fait. J'ai tout essayé. Je suis allé sur Twitter, je suis allé sur le web, impossible. Et finalement, j'ai dû la débrancher, la rebrancher sur l'écran de l'ordinateur. J'ai connecté, ça a marché. Et puis, je l'ai ramené à la télé et ça a marché. Aucune explication, j'ai pas compris. Et bon, depuis, ça marche très bien, donc je pense pas que ça soit vraiment des gros problèmes de la console. Enfin, on verra dans les semaines à venir si c'est le cas. Mais je pense que c'est surtout que dès qu'il y a un modèle, enfin une machine qui a un problème, on en entend parler parce que c'est Internet. Donc, je pense que c'est un petit peu
tout
ça.
Tout à fait. Après, tu as toujours les premières séries qui sont généralement moins bonnes que les suivantes.
Ça peut arriver, c'est sûr.
Années, hein.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, à part ça, franchement, la console est super belle. Et elle a une vraie présence. Je trouve que là, je l'ai posée à côté de la télé en verticale. Et quand je joue sur ma télé, c'est presque... Je sais pas comment dire. Elle m'attire le regard, en fait. Elle me dit... Je suis là, je suis un monolithe et tu me vois. Tu sais, c'est vraiment genre, et tu la vois et tu... C'est vrai qu'entre le boulot, le petit... Pardon, Eska, tu coupes un peu.
Il y a un petit effet Stanley Kubrick.
Mais complètement.
Un petit effet Stanley Kubrick là, dans ce que tu nous racontes.
Mais c'est complètement ça. Tu sais, elle est là, tu te dis, ok, elle est jusqu'ici... Elle est pacifique, mais est-ce que ça va durer jusqu'à quand? Je ne sais pas. Vraiment.
2001, le titre de l'espace.
C'est ça. Ça c'est
je vais annuler ma commande, du coup, tu me fais peur, hein, j'arrête.
et donc, c'est une machine qui est particulière, on va dire, dans son design et qui est très réussie, super silencieuse. Bon, comme tout le monde l'a dit, hein, donc je ne vais pas le répéter, mais super silencieuse, super rapide, complètement similaire à ce que fait la Xbox depuis longtemps. Donc, pas de grande... nouveauté au niveau du système ou de l'interface ou de tout ça. La manette, super sympa. Vraiment, la manette très, très agréable en main. Même en jouant à Destiny, je n'ai pas eu trop de problèmes à passer de la manette PlayStation à la manette Xbox avec les sticks à un autre endroit. Mais bon, bref, c'est une super machine et je parlerai un petit peu plus de l'expérience dans les jeux dans une minute quand je parlerai de Destiny, mais pour le moment, simplement, mon impression, c'est que c'est une super machine en espérant que le problème que j'ai eu avec la manette ne se répétera pas, parce que ça sera un petit peu problématique. Et oui, super silencieuse, très jolie, très belle. On verra si je réussis à avoir la PlayStation 1 un jour, mais j'ai l'impression que la Xbox est à des années-lumière au niveau design de la PlayStation, quoi.
C'est quand même étonné que tu dises que tu la trouves belle, parce que c'est vrai que quand elle a été annoncée, qu'on a vu les premiers visuels, cette espèce de gros bloc là, on était tous très sceptiques. Et au final, du coup, ça rendrait mieux en vrai qu'en image, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est comme salon.
C'est possible, ouais. Je sais pas. Quand elle est là, elle est. Enfin, c'est pas que je la trouve, genre. C'est un bloc noir, hein, tu vois. Mais l'effet concave sur le dessus avec les petites traces vertes, l'austérité du truc, ça me plaît quand même, ça me parle. Et quand tu as beaucoup de lumière, c'est peut-être un petit peu. Bon, elle est posée là. Mais quand tu es dans une ambiance un petit peu plus tamisée, tu vois, que tu commences à te mettre à l'aise, tout ça. Tout à coup, la console, tu la regardes d'un œil un petit peu différent. Tu dis, ouh, mais comme tu es...
Peut-être se met à fumer aussi. C'est amusé, il y a de la fumée. Enfin, c'est une autre ambiance.
C'est ça, c'est ça.
Pour les soirées, pour les mariages, tu peux l'emmener avec toi.
Exactement. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai vu les deux machines et effectivement, ce que tu disais, Escarina, quand j'ai vu la première fois la Series X, je me suis dit, mais c'est pas très beau. Et quand j'ai vu la PS5, je me suis dit, ah, c'est super beau. Et finalement, aujourd'hui, maintenant que j'ai vu les deux machines, en fait, ben, je pense l'inverse.
Donc, ouais. Voilà.
Comme ouais. Quoi. C'est un peu mon impression aussi. Et comme le dit Mouik Mouik dans la chatroom, le toucher de la manette est hyper agréable. C'est un truc mat au regard et au toucher, en fait. C'est un tout petit peu texturé. Vraiment très, très réussi, cette manette. Un tout petit peu bruyante. Le clic, si vous avez un enfant qui dort à côté, ça peut être problématique. Le clic du D-pad fait un petit peu de bruit. Et puis les vibrations, bon, ça fait un petit peu de bruit aussi. Mais non, dans l'ensemble, super, super machine, quoi. Donc voilà.
Les pads Xbox, ça a toujours, moi, ça a toujours été ma petite préférence.
C'est vrai qu'elle. Mais celle-là est particulièrement bien. Moi, je la trouve même mieux que celui de la Xbox One, même si c'est quasiment la même chose, on va dire. Et les vibrations, ben, c'est pas le retour haptique de la PlayStation 5, c'est-à-dire que c'est juste les vibrations qu'on a connues jusqu'à maintenant de la Xbox. Et d'ailleurs, j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir des vibrations dans les gâchettes, alors que sur Xbox One, c'était le cas. Peut-être que j'ai simplement pas eu un jeu qui avait des vibrations dans les gâchettes, mais sur Destiny notamment, j'en parlerai peut-être tout à l'heure comme je disais, mais j'ai l'impression que le jeu est plus beau que sur PlayStation. Enfin, j'en parlerai au moment de parler de Destiny. Donc, je vais pas tout vous gâcher maintenant. Mais le rendu, j'ai l'impression qu'il est plus fin, alors que c'est simplement de la 4K comme les autres consoles 4K qui existaient déjà. Donc, je sais pas. Mais la question importante, c'est est-ce que on est maintenant la nouvelle génération, la next gen? Bah, ça y est, elle est là. Donc, c'est la current gen. Mais pas pour la PlayStation, il faut encore attendre une semaine. Enfin, aujourd'hui aux États-Unis et au Japon, mais dans une semaine en France. Est-ce qu'on est encore dans la... On est un petit peu comme... je ne sais pas, c'est les consoles de Schrödinger. On n'est ni dans la next-gen, ni dans la old-gen. On est dans l'entre-deux étrange que nous vivons cette semaine.
Surtout qu'il y a quand même assez peu de jeux. Finalement, ça reste quand même les jeux qui font tout. Donc, sans vouloir gâcher la fête, non, mais c'est vrai, parce que moi aussi, à chaque fois qu'il y a des consoles depuis 20 ans, je suis comme un fou, etc. Et là, j'ai l'impression que, hormis la hype normale de notre époque, en fait, il n'y aurait rien qui me ferait acheter une de ces machines si je n'étais pas dans ce milieu, quoi. Et je trouve ça assez choquant, moi, finalement.
Finalement, c'est ça qui fait que j'ai pris aucune des deux au lancement. C'est le line-up qui est vraiment très faible, quoi.
Et au-delà de ça aussi, t'as techniquement, l'écart ne va probablement, enfin vous le verrez pour ceux qui auront les machines, c'est pas si violent que ça, en fait. Effectivement, il y a un écart technique, hein, à l'image, mais après, c'est pas aussi violent que ça. C'est plus sur du confort. On est plus sur des machines qui sont beaucoup plus confortables que les précédentes, notamment au niveau des temps de chargement, de l'affichage et des choses comme ça, plus que dans les jeux qui vont révolutionner ou les graphismes qui vont révolutionner l'aspect des jeux vidéo, quoi. Et ça, bon, je trouve c'est assez violent, je trouve.
Bah, c'est les premiers, hein, donc forcément, il y en a beaucoup qui sont même que des versions de la gen précédente. Et puis les versions next-gen, elles sont next-gen que sur le papier parce que c'est des portages souvent un peu rapides. Je pense que c'est difficile de juger tout de suite. Mais c'est vrai que dans le confort...
Vas-y, pardon.
Non, c'est juste que dans le confort, effectivement, le confort est beaucoup plus... ça se sent tout de suite, quoi. Le confort, dès que tu lances la machine, c'est plus rapide, plus agréable, plus... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire fonctionner le truc sur ta machine précédente, mais... Je sais pas, sur Destiny par exemple, c'est juste un exemple, c'est pas pour parler de Destiny, mais les icônes des objets se chargent immédiatement quand tu passes d'un menu à l'autre. Quand j'ai testé Assassin's Creed sur PlayStation 4, parce que j'ai fini par le prendre sur PlayStation 4, parce que dans le store sur Xbox, étrangement, il n'y avait pas la version standard accessible. C'était super bizarre, ça encore un petit bug de lancement. La version standard n'était pas accessible, ils ne me proposaient que les versions plus chères. Et donc, il fallait passer par le store Microsoft. Ah ouais, c'était très bizarre. Et donc, je me suis dit, oh, bon, allez, fuck, je le prends sur PlayStation 4. Et le jour où j'aurai la PlayStation 5, je prendrai la version, enfin, j'aurai directement la version PlayStation 5, puisque les deux sont inclus dans le pack, mais par exemple quand je lance Destiny sur PlayStation 4 et sur Xbox Series X, il charge beaucoup plus vite sur Xbox Series X. On avait une petite crainte sur le fait que les jeux connectés ne bénéficieraient pas du SSD parce que justement il faut le temps de se connecter au serveur. Non, je vous garantis, c'est la moitié ou le tiers du temps ou le quart du temps entre le moment où on se lance dans une mission sur PlayStation et sur Xbox Series X. Ça va beaucoup beaucoup plus vite, donc la connexion ne réduit pas tout. Et encore, c'est pourtant pas la version next-gen de Destiny. Donc même sur la version old-gen, ça change vraiment pour les temps de chargement, au moins même pour un jeu service connecté. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais moi, je trouve que le confort est important. Pardon, vas-y.
Mais je t'en prie. Mais Microsoft aussi, c'est un petit peu leur cœur de métier, tout ce qui est connexion. Et du coup, pour le coup, ça leur avait coûté très cher à la génération précédente au moment de l'annonce. Et là, en fait, tout ce qui est connexion, etc., leur infrastructure, elles sont canon. Donc moi, ça m'avait pas du tout inquiété, ça, ce besoin d'être connecté, ouais, en fait, pour pouvoir profiter d'une... Enfin, qui aurait pu empiéter sur la rapidité.
Sur Destiny, on doit se connecter tout le temps à différentes instances, techniquement, au niveau du réseau. Et je sais pas si sur Xbox One, c'était plus rapide que sur PS4. C'est possible, mais je crois que c'est dû aussi au fait que toutes les assets, il doit les charger. Et donc là, ça bénéficie de la vitesse du SSD, je crois. Hein, mais... Bon, il y aura plein de tests qui vont arriver. Ça doit être un peu des deux, c'est possible. Alors, parle-nous de Assassin's Creed Valhalla, Emric. Qu'est-ce que...
Moi, j'aime bien. Voilà.
Disons que moi, j'ai joué une petite heure seulement, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais ça a l'air d'être assez proche des Assassin's Creed de ces trois dernières années pour être familier, et en même temps ça change suffisamment. Moi, j'ai eu quelques trucs où je me suis dit, ah, ça c'est sympa, c'est un peu différent, c'est certainement itératif, mais ça a l'air d'être exactement ce qu'on en attendait, en fait, en disons le bon ou le mauvais sens du terme, mais moi je dirais le bon parce que j'aime bien. Mais
Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, j'ai entendu certains commentaires comme ça qui disaient, oui, bon, c'est toujours un peu pareil et ça se renouvelle pas. Oui, c'est sûr, en fait, ça reste un Assassin's Creed. Ça, c'est l'évidence même. Donc, si vous connaissez la saga, vous savez sur quoi vous allez tomber, en gros, pour faire simple. Et c'est évidemment le troisième de la série de trois qu'on vient d'avoir avec la refonte, en fait, qui est venue à partir d'Origins. Donc ça, oui. Maintenant, c'est un jeu qui, la manière d'explorer n'est pas la même. C'est un peu plus confus et dans le bon sens du terme, puisqu'on te fait vraiment découvrir une nouvelle terre que tu ne connais pas. Et même si tu as encore des indicateurs, etc., sur la map et tout ça, en fait, tu peux, si tu le désires, vraiment te balader et explorer. Et tout cela est plus cohérent. Tu ne vas plus vraiment à un endroit, t'as appuyé en disant, voilà, moi, sur la map, je veux aller là. Tu n'as plus un marqueur au milieu de l'écran. Le marqueur existe toujours, mais il est beaucoup plus haut. Et en fait, du coup, ça n'empiète pas, en fait, sur ce que tu vois en face de toi. Donc, c'est beaucoup plus immersif. Donc ça, c'est un des trucs qui, moi, m'a beaucoup plu. Ensuite, je les ai trouvés beaucoup plus centrés. Il y a beaucoup moins de loot. Aujourd'hui, maintenant, tu as quelques loot et tu investis dans tes loot. Donc, tu mets des denrées dedans pour qu'ils soient plus forts. Donc ça, ça change aussi pas mal de choses. Tu as aussi beaucoup de petites énigmes qui ne sont pas forcément liées à des missions. Il y en a aussi, mais qui ne sont pas forcément liées à des missions. Tu vas arriver à un endroit, tu vas voir, tu as toujours ton espèce de... j'allais dire ton objet volant. Bref, bon, là, c'est un corbeau, c'était pour... Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, que ce soit un aigle, un corbeau ou un UFO, c'est un peu pareil. Bref. Et du coup, donc là, c'est un corbeau. Il t'indique effectivement certains éléments clés. Et tu y vas et tu te dis, bon, bah, là, je vais trouver une armure, je le sais. En fait, t'arrives, sauf que l'armure est absolument pas accessible. Et en fait, ce n'est absolument pas une mission, c'est juste que c'est un endroit où tu vas devoir te creuser la tête pour trouver l'entrée, en fait. Et c'est marrant parce que avant, on l'avait dans, par exemple, quand c'était en Égypte, on avait ça dans certaines pyramides. Là, c'est intégré directement au monde ouvert. Du coup, tu es complètement hors scénario, hors quête annexe, juste tu te bats pour essayer de trouver cet objet et donc tu te bats contre le level design, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça...
C'est un puzzle environnemental, en quelque sorte.
Oui, c'est intégré au monde ouvert. Donc c'est plutôt sympa et du coup, ça donne un vrai sentiment d'exploration, en fait. Donc ça m'a vraiment plu. Le scénar aussi est plus présent, en fait, dans le sens où tu sens qu'il y avait un petit travail sur les cinématiques, etc. Tu sens que Last of Us 2 est passé par là et que du coup, ils se sont un petit peu inspirés. C'est un petit peu plus prenant. Mais vraiment, tu peux complètement te perdre, chose qui ne m'était jamais arrivée dans un Assassin's Creed depuis au moins deux épisodes. Avant, je savais tout le temps où j'allais, pourquoi j'y allais. Là, ce n'est pas forcément le cas, en fait. Et ça, c'est la grande nouveauté pour moi.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par « tu peux te perdre »
Bah, en fait, tu peux aller te balader comme tu veux, sans te poser de questions. Il va de toute façon t'arriver quelque chose. Alors qu'avant, dans les autres Assassin's Creed, moi, je regardais la map, je disais, je veux aller là pour cette raison, et j'y allais. Alors que maintenant, je me laisse aller à me balader, et je trouve des trucs en visuel, sans passer par la map, en avançant dans l'univers, en fait.
D'accord.
Et ça, pour le coup, c'est très différent. Il y a une bien meilleure intégration de tous les événements dans le monde ouvert, ce qui fait que tu as vraiment l'impression de découvrir une nouvelle terre, comme c'est le cas dans le scénario aussi, d'ailleurs. Et ça c'est
vraiment
cool.
à mon expérience sur Ghost of Tsushima. Alors moi, j'ai fait aucun Assassin's Creed, hein, donc même si celui-là me tente bien et les deux d'avant.
Ça fait l'essentiel.
Et alors du coup, est-ce que par rapport à ce que tu disais juste avant, est-ce que visuellement, moi j'hésitais entre le prendre sur PS4 ou attendre d'avoir la PS5 pour l'acheter. Pour toi, du coup, a priori, c'est kiff-kiff.
Alors moi, j'ai joué sur PS4 Pro. Et c'est très bien, en fait, hein, j'y joue en 4K upscalé, donc hein, c'est upscalé sur PS4 Pro, et c'est du 30 FPS, et ça passe tout à fait, il n'y a pas de problème. Après, la version PS5 est évidemment au-dessus, comme la version Xbox Series X, qui, là c'est du 4K 60, donc effectivement il y a un écart. De là à dire que c'est gênant, non, en vrai, je trouve pas.
C'est uniquement sur les FPS que ça change, ou est-ce que visuellement le jeu est amélioré aussi sur...
En fait, le jeu est un petit peu plus fin, mais ça reste la même base, en fait. Il y a quelques textures qui sont pas terribles sur PS4 Pro, qui sont pas terribles sur Series X, par exemple. Moi, je l'ai pas vu sur PS5, hein. mais sur Series X, je l'ai vu. Effectivement, c'est le même jeu en un peu plus fin. La 4K, c'est de la vraie 4K, donc ça fait quand même une différence par rapport à la 4K upscalée. Et le 60 FPS, alors en vrai, 60 FPS, c'est très bizarre dans un jeu en monde ouvert, je trouve. Mais moi, je préfère jouer en 30. Voilà. Mais après, tu vois une différence. Tu vois que c'est beaucoup plus fluide, etc. Évidemment, quoi. Maintenant, sur Old Gen, ça passe très très bien aussi. Le jeu est bien optimisé. Là où il faut s'inquiéter, apparemment, c'est sur PC. Mais là, je ne l'ai pas vu tourner.
D'accord.
Ça fait partie des jeux que tu achètes sur une console old-gen et qui te donne aussi l'accès à la version old-gen.
C'est ce que j'allais dire. Tu peux l'acheter SK sur PS4, tu vas voir que dans le store, ça te dit que tu achètes la version PS4 et PS5. Et sur Xbox, c'est en Smart Delivery, donc ça te download la version adaptée à ta console. Donc sur ce point, tu peux y aller tranquillement, tu peux l'acheter dès maintenant.
Quelqu'un dans le chat qui dit que la version PC est très bien optimisée, alors que moi j'ai eu des échos comme quoi c'était pas le cas du tout. Donc tu vois. Voilà.
Très bien, très bien. Ouais, ça a l'air vraiment d'être... Enfin, c'est le genre d'évolution qui ne va convaincre absolument personne qui n'aimait pas déjà ces jeux-là et qui, j'ai l'impression, a suffisamment de modifications pour rafraîchir le concept pour les gens qui aiment bien. Et moi qui, comme les gens qui écoutent l'émission le savent, suis complètement tombé amoureux de AC Odyssey. J'y ai joué pendant 2 ans de suite et je l'ai fini cet été, la 3e quête principale, je l'ai fini que cet été, j'y rejouais régulièrement. J'ai été assez séduit par ce que j'ai vu dans la première heure. Le système de combat est même un petit peu différent, il est un peu plus lent, j'ai l'impression un peu plus lourd.
Oui, il a changé.
Et en bien, toi, tu l'aimes bien le nouveau ?
Alors oui, moi j'aime bien. En fait, c'est un peu plus cassé. Avant, je trouvais ça assez fluide, en fait, dans la manière dont ça fonctionnait. Là, c'est un rythme qui est plus cassé. Ça vient du fait qu'on utilise des haches, qu'on utilise des fléaux, des boucliers, etc. Tu peux d'ailleurs utiliser deux boucliers, ce qui est assez rigolo. Mais donc voilà, il y a plein d'autres choses, hein, que je n'ai pas soulignées qui changent aussi dans le jeu, notamment le fait que tu construises ton propre point d'attache, en fait, pour pouvoir aller conquérir l'Angleterre. Ça a aussi son importance, puisque ça te permet, en fait, tu vas aller faire des raids à l'extérieur, donc tu vas te balader avec ton drakkar sur les rivières anglaises et tu vas aller attaquer un village au hasard pour l'histoire ou que tu auras choisi, c'est comme tu veux, pour aller récupérer des denrées, pour pouvoir créer ton petit avant-poste en fait, et ça va te donner accès à des nouvelles choses. Ça c'est plutôt agréable. Et puis il y a aussi le côté graphique qui moi m'a beaucoup choqué dans le bon sens du terme, parce que jusqu'ici, en tout cas pour les deux épisodes précédents, donc Odyssey et Origins, j'ai toujours trouvé que c'était très très clean comme région. Donc la Grèce et l'Égypte, ça a l'air d'être super clean. Pour y être allé, c'est un petit peu moins le cas en vrai. Mais du coup, en Angleterre, en fait, là où ils nous mettent, c'est que en fait, t'as un petit côté sale dans les graphismes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça rend. Ils ont fait cet effort-là de donner le côté un peu boueux, je dirais, qu'on peut aussi retrouver dans les films qui traitent de cette époque. Et ça, moi, ça m'a vachement plu. Tu vois, là, c'est vachement plus sombre. C'est vachement plus cracra. Ah bon, j'ai une image là, mais ça doit être en décalé par rapport au live. Mais du coup, ça m'a vachement plu, parce qu'au début, je me suis dit, ah, c'est quand même un petit peu moins beau. Et finalement, c'est très cohérent aussi. Et ça m'a beaucoup séduit.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bon, ça donne envie. Je vais mentionner rapidement le fait que ils ont indiqué que ils avaient vu deux fois plus d'engagement qu'au lancement de Assassin's Creed Odyssey. Donc ça a l'air de bien marcher. Bon, ça se lance avec la next gen, donc c'est un petit peu normal. Et visiblement, les affaires de cet été chez Ubisoft n'ont pas eu l'air d'avoir un impact sur les ventes. C'était pas forcément le but non plus. Les développeurs, même ceux qui étaient déçus par ce qui s'est passé ou très frustrés par la situation, généralement disent qu'ils préfèrent qu'on achète les jeux. C'est pas le but de ne pas les acheter, mais en tout cas, ça a l'air de très bien se vendre.
Le jeu est très très bon, hein, vraiment.
Ouais. Vas-y.
Pour moi, c'est sans doute un des meilleurs c'est peut-être le meilleur des trois derniers, quoi. Donc voilà.
Ah oui, carrément.
Oui, complètement, parce qu'il y a des aspects encore que j'ai effectivement pas expliqué non plus, mais ils reprennent des choses du premier Assassin's Creed, notamment au niveau des assassinats ou de l'infiltration, où t'as des zones de demi-infiltration. Bref, si on a encore un peu de temps, j'en parle. Sinon.
Et puis on va avancer après.
Ok, donc l'histoire de la demi-infiltration, c'est qu'en fait, tu peux mettre ta petite capuche et tu vas arriver dans des zones, ce qu'on appelle des zones de méfiance, où tu as les villageois, en fait, et tous les gens de la zone qui vont se méfier de toi. Et il va falloir que tu t'infiltres sans que les gens voient ton visage, en fait. Du coup, on revient à quelque chose d'un peu plus infiltration qu'on avait perdu, en fait, en vrai. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Pareil pour les assassinats aussi, il y a certains personnages que tu ne peux pas tuer d'un coup.
On a perdu. Il s'est infiltré dans Internet et il a disparu. Toi, tu es toujours là. Du coup, j'en profite pour
tu
dire. Ah, ça y est, t'es revenu. Vas-y, continue.
Je suis là. Tu m'entends toujours?
Oui, c'est bon. Je t'entends bien.
Ok, donc voilà. Bref, ils ont revu la mécanique d'infiltration sur les ennemis puissants, qui fait que tu as l'impression de faire un assassinat d'importance, chose qu'on avait perdu aussi avant. Et du coup, c'est un espèce de best-of de tout ce qui se fait de mieux, j'ai envie de te dire, dans l'univers d'Assassin's Creed, sur toute la saga. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je pense que c'est un des meilleurs épisodes, en tout cas sur les trois derniers, je pense.
D'accord. Moi, ça me convainc. Deux choses que je voulais ajouter. D'une part, il semblerait, sans spoiler, je ne sais pas pourquoi, mais certains disent qu'il faudrait laisser l'animus choisir si on est Eivor homme ou femme, le personnage homme ou femme. Visiblement, c'est un choix bizarre, mais c'est mieux si on laisse l'animus choisir. Tu confirmes, sans dire pourquoi ?
Alors, moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais oui, tu peux faire comme ça, effectivement. Beaucoup de gens disent qu'il faut laisser l'anime choisir, oui.
D'accord. L'autre chose que je voulais noter, c'est que le jeu a l'air optimisé au niveau de l'interface, parce que, d'une part, les menus se chargent plus vite. Là, je parle de la PS4, hein, donc c'est vraiment la console old-gen ou current-gen.
PS4 Pro, hein. Parce qu'attention, sur PS4, c'est la Pro. Plus chaud encore.
Ah, d'accord. Bon, sur la Pro, en tout cas, il y a... Il y a a moins de temps de chargement dans les menus, et surtout quand on envoie le corbeau faire sa reconnaissance, on revient, en tout cas, même quand on est, je me souviens que dans Odyssey, dès que je m'éloignais de 200 mètres, il y avait un mini temps de chargement quand on revenait au personnage, et là, c'est pas le cas.
Ça dépend de la distance en fait.
Bien sûr,
bien
loin,
sûr. Tu l'as aussi hein, un petit peu.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sur Odyssey, dès qu'on s'éloignait à 200 mètres, c'était le cas. Là, je me suis éloigné un petit peu plus loin sans l'avoir. Donc, bon, j'imagine qu'ils ont fait des optimisations à ce niveau-là.
C'est le premier temps de chargement qui est dur. Le reste, ça va en fait.
Le reste, ça va, ouais. Bon, je voudrais aussi parler quand même de Destiny 2, comme je le disais. Je vais en parler moins longtemps que tu as parlé d'Assassin's Creed, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que ça a l'air très sympa. J'ai joué quelques heures déjà. Bon, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de choses à tester, mais ça a l'air très sympa. C'est une histoire de côté obscur de la Force, en quelque sorte. Je ne suis pas certain qu'au niveau de la narration, ça passe très très bien, enfin ça soit très cohérent, parce que c'est vraiment, oh, il y a le côté obscur, mais devons-nous l'utiliser? Oui, mais c'est dangereux, faisons attention. J'espère qu'il y a un truc dans le scénario après qui fait que ça se comprend, que ça se justifie, que ça se... ou alors qu'il y a plus que juste, bon, c'est le côté obscur, est-ce qu'on doit l'utiliser? Oui, ok, allons-y, c'est bon, t'emmerdes pas. J'espère qu'il y aura un peu plus que ça, mais même si c'est pas le cas, bon, Destiny, c'est surtout être super badass et tirer sur tout ce qu'on voit bouger, et ça fonctionne toujours très bien. Il y a une nouvelle zone, une nouvelle planète à explorer, il y a des nouveaux pouvoirs qui sont super fun. La construction de l'histoire, j'ai eu, en fonction des différentes extensions de Destiny, des bonnes et des mauvaises surprises sur le scénario, le début, hein, c'est des extensions comme dans tous les jeux services MMO, et parfois ils sont bons, parfois ils sont moins bons. Là, sur le début, je trouve que c'est pas mal, c'est peut-être pas au niveau du meilleur, mais c'est quand même assez sympa, et la raison pour laquelle j'en parle, en particulier, c'est que sur Xbox, il est inclus dans le Game Pass. Alors vous n'avez pas le Season Pass qui fait qu'il y a une sorte de Battle Pass en fait, auquel vous n'allez pas avoir accès, mais ça c'est vraiment pas très important. Vous pouvez tout simplement jouer au jeu sans le Season Pass et l'apprécier, puisque l'extension qui s'appelle Beyond Light est incluse dans le Game Pass. Donc en particulier pour les gens qui sont sur Xbox, c'est un truc à ne pas négliger. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir le jeu si vous y avez jamais joué, d'autant plus qu'on a immédiatement tous les objets, enfin on arrive au même niveau que tous ceux qui jouent depuis longtemps, et on a une histoire simple dans laquelle se plonger. C'est prenant, c'est sympa, c'est bien fait, et ça donne le plaisir de jouer à Destiny. Vraiment, je le recommande, en particulier, comme je le disais, si vous avez le Season Pass. Il n'y a pas de raison de se priver. Et comme je le disais, je l'ai lancé sur PS4 et sur Xbox Series X, et j'ai l'impression qu'il est plus fin, il se charge plus rapidement, bien sûr, mais graphiquement, j'ai l'impression qu'il est plus fin, qu'il est mieux. Alors que c'est pas, enfin, c'est sans doute pas le cas, je sais pas, mais c'est peut-être parce que j'ai juste envie d'apprécier.
500 balles, ouais.
C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Comme j'ai payé 500 balles, il est quand même vachement mieux sur Série X, hein, c'est sûr. Donc voilà pour Destiny 2, je vous en reparlerai certainement un peu plus quand j'aurai fini la campagne, et on reviendra de toute façon sur tous ces jeux-là, il y en a d'autres qui sont intéressants aussi, donc c'est le moment de parler de tout ça. Pour finir quand même sur la next-gen, sur nos reviews, on n'y a pas joué, mais il y a Godfall qui est l'un des jeux exclusifs de la PlayStation 5, il est aussi sur PC. Et visiblement, c'est pas vraiment la fête pour Godfall, parce que les premières reviews sont tombées, et les premières reviews, ça a l'air d'être un petit peu la débandade, puisque Metacritic le donne à 61 sur 100 en score, et vous savez que c'est le système américain, c'est la moyenne, 61 sur 100, ça veut dire que généralement, il est bien en dessous, en gros, c'est un petit peu... on va pas dire une bouse, mais c'est clairement pas un...
Le hack and slash du pauvre, c'est ça, avec un super design, cela dit, par contre.
Ouais, il a l'air très beau.
C'est dommage.
C'est dommage. Je pense qu'on risque de l'avoir sur PS Plus dans 3 mois.
C'est donc possible. Moi, j'ai demandé une version juste pour le design et je ne l'ai pas encore reçu. Donc, s'ils n'envoient pas les versions, c'est que...
Ah oui, effectivement, effectivement.
Après, moi, je suis pas testeur pour le Day One, donc voilà. Mais...
Ouais, ça a l'air un petit peu compromis. Moi, je pensais qu'il pourrait être sympa. J'avais de l'espoir parce que c'était un concept qui avait l'air cool. Mais bon, clairement, bref.
Pour Après, ceux y a des, qui, il y a des gens qui disent que c'est mieux que prévu hein, et qui sont en train de le tester. Je le dis quand même. Hein, donc voilà, j'ai aussi ces échos là. Après, j'ai plus d'échos négatifs qu'autre chose.
Mais ensuite, tu sais, même un chiffre moyen sur des notes, ça veut dire que peut-être que certains l'ont beaucoup aimé, certains l'ont pas du tout aimé. Il peut y avoir si on cherche tel type de jeu, ça peut vous convenir et ça peut beaucoup vous plaire, alors que sur d'autres aspects. Il pêche et donc ça fait qu'il est noté moins bien au final quoi.
Donc, exactement. Faudra attendre encore un peu quoi.
C'est ça.
Mais ça sent pas forcément, ce sera pas le 20 sur 20 quoi ou le 18 sur 20. C'est
ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens enfin, il y a tellement de jeux qui sont très bien, qui sont disponibles, que ça soit sur PlayStation ou sur Xbox, que, bon, les gens vont pas... Enfin, en l'occurrence, c'est PlayStation, si on parle console. Je pense que les gens vont pas forcément se jeter dessus, malheureusement. Mais...
Après, il a la chance d'être dans un line-up qui est pas hyper gonflé en lancement de console. Peut-être que, du coup, ça va lui permettre d'être acheté plus que...
Disons que à l'époque des anciennes générations, si tu voulais un jeu sur ta console toute nouvelle qui n'avait pas la rétrocompatibilité, bah il fallait que tu achètes le jeu qui était dispo. Aujourd'hui, tu vas jouer à des jeux qui, enfin je sais pas, Assassin's Creed par exemple, il a été bon, c'est vrai qu'il a été porté, mais tu peux jouer à Assassin's Creed, tu peux jouer à Miles Morales si t'es sur PlayStation, tu peux jouer à au hasard Demon's Souls. Il y a de quoi faire sur PlayStation, donc
ouais.
Bon. Je crois que c'est à peu près tout pour la next gen, mais tu nous disais, on va parler dans une seconde de Devil May Cry aussi, mais tu nous disais, Escarina, que tu avais tu t'étais lancé dans un jeu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé.
Oui, c'est ça. Donc, je ne vous remercie toi ni Daniel. Je me suis lancé à corps perdu dans Hades. Sur Switch du coup, ce qui m'a permis de voir que j'avais des problèmes avec mes Joy-Con, je suis ravie. et donc du coup, bah, je joue avec les Joy-Con attachés à la Switch, ce qui rend la lecture du jeu un peu moins facile, mais quand on est accro, on s'habitue, hein, là-dessus, on oublie vite les petits défauts. Et ouais, je m'amuse beaucoup. C'est un très très bon jeu. Comme pour tous les jeux de Supergiant Games, l'OST a tombé. Donc il y a une ambiance visuelle et auditive, on va dire, qui sont vraiment top. C'est très différent de Dead Cells. C'est peut-être le dernier roguelite. Sur lequel j'avais passé autant d'heures. On va dire que l'addiction est un petit peu différente. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est la narration. Et quand tu vas au bout du jeu, quand tu termines le jeu, ce qui au final arrive assez rapidement, en tout cas moi j'ai réussi à le faire contrairement à Dead Cell, le jeu ne se termine pas grâce à la narration, ils réussissent vraiment à donner un sens à la répétitivité du roguelite quoi. Et ça je trouve ça assez génial. Donc c'est vraiment un très bon jeu, un très bon jeu qui est fait, on le voit, avec pas des moyens de fou furieux quoi, mais un très bon jeu dans le gameplay et dans la narration, ce qui aujourd'hui dans les roguelite n'est pas non plus forcément facile à trouver quoi. Alors, y en a un, mais c'est pas toujours sur la narration qu'on les attend le plus quoi. Donc merci pour la reco, je suis très contente d'avoir dépensé mes sous.
Alors j'en ai un autre pour toi si tu veux, il y a Curse of the Dead Gods sur lequel moi je suis en ce moment, qui est sur PC et qui est un petit peu dans le même genre que Hades aussi.
Ah oui,
et qui vaut le détour. Alors moi je suis pas du tout roguelite hein, donc ça m'a... C'est le genre de truc qui m'agace vite. Et là, pour le coup, sur celui-là, j'ai vraiment accroché. Et la narration, pour le coup, est beaucoup moins poussée que sur Hades.
D'accord.
Mais ça vaut le coup d'aller voir. Curse of the Dead Gods. Ça doit valoir 20 balles. C'est en early access. C'est vraiment pas mal.
Non, mais d'accord. Si vous me faites ça à chaque émission, ça ne va pas être possible.
Moi, je n'étais pas là la dernière. Hein. Ce n'est pas de ma faute.
Écoute, je regarde ça, effectivement. Curse of the Dead Gods. Je crois que Hades, en tout cas, c'est un petit peu le pas forcément attendu, mais le truc qu'on va retrouver dans les listes de jeux de l'année à la fin de l'année, malgré la next-gen, c'est un petit jeu qui paye pas de mine niveau technique. Enfin, si, il est très très bien, mais je veux dire, il tourne sur Switch. Et je crois qu'on va le retrouver dans de nombreuses listes.
Et il était pas cher en plus, là. Il y avait des réductions, il était à 17 balles ou hein, 15 balles il y a encore quelques jours.
Ouais, c'est sur Switch, je crois, et peut-être qu'il est. C'était la promo de lancement, mais on commence à s'être éloigné du lancement, là. Donc,
Je crois que c'est 20 balles normalement, c'est ça ?
20 balles, quelque chose comme ça, ouais.
Mm-hmm. Sur Switch, c'est 25. Je disais, tu payes 5 euros de taxe Nintendo.
De taxe Nintendo et de taxe Switch,
ouais. Ah, Mario, il se fait plaisir. Hein.
Bon, bah écoutez, avant de passer à la suite, je voudrais tout de même vous parler un tout petit peu de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est le système qui permet de soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez, si vous appréciez l'émission, devenir Patriote, c'est comme ça que ça s'appelle, et en devenant Patriote, vous choisissez une somme que vous donnez pour soutenir chaque épisode, et de ce fait, vous avez droit à des bonus absolument incroyables. Vous avez des épisodes sans pub et sans cette partie promo au milieu, vous avez des épisodes étendus avec l'after show qu'on va faire tout à l'heure, on va voir de quoi on va parler, vous avez des bonus avec des éditos et des petits contenus supplémentaires, vous avez une newsletter étendue, enfin vraiment il y a plein de trucs cool. Si vous appréciez l'émission, je vous invite à aller regarder du côté de patreon.com/rdvjeu. Je pense que ça pourrait vous intéresser, surtout que l'émission est disponible entièrement gratuitement et c'est le moyen principal de la financer. Donc si vous passez un bon moment en notre compagnie, j'apprécierais énormément que vous considériez l'idée de soutenir sur Patreon. Encore une fois, patreon.com/rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. J'envoie encore des bisous très spéciaux à tous ceux qui soutiennent à mes patriotes adorés.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on va revenir à la question des next-gen et laquelle qui est la mieux. On a le premier test de Digital Foundry sur un jeu qui tourne sur les deux consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et qui est donc un outil de comparaison relativement fiable. C'est Devil May Cry 5 Special Edition qu'ils ont testé. Ils l'ont testé en mode performance, en mode avec ray tracing performance, en mode avec ray tracing qualité et on peut voir vraiment laquelle s'en sort mieux, de la PlayStation 5 ou de la Xbox. Est-ce que vous savez quel est le résultat ? Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Comme toujours dans ce genre d'histoire, c'est kiff-kiff. Voilà. En gros, parfois, la Xbox se comporte mieux. Parfois, la PlayStation se comporte un petit peu mieux. Mais dans les deux cas, on est à, 5%, 10% de différence, grand maximum. Et c'est vraiment parfois l'une, parfois l'autre, qui a l'avantage. Dans les cutscenes, la Xbox a l'air de mieux se comporter. Dans le gameplay, la PlayStation a l'air de mieux se comporter. Mais vraiment, c'est à quelques frames près. Il faut noter tout de même que c'est un jeu qui a été optimisé pour la next-gen depuis la version de la génération précédente. Donc ça, c'est pas forcément le plus représentatif. C'est aussi un jeu Capcom, donc développeur japonais. Peut-être qu'ils ont passé plus de temps sur la version PlayStation 5, c'est possible. La conclusion de la team Digital Foundry, c'est généralement que la PlayStation 5 a l'air de mieux se comporter que ce qu'ils attendaient. Et la Xbox a l'air de se comporter un petit peu moins bien que ce qu'ils attendaient, parce que normalement, la Xbox, au niveau puissance brute, elle est un petit peu plus haut. Donc, ils sont un petit peu surpris par la chose, mais encore une fois, c'est une première, un premier jeu de données qui ne veut pas forcément dire, c'est une indication, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose sur la durée, on va dire. Sur la durée, il faudra attendre de voir comment les autres jeux se comportent, et puis surtout les jeux qui seront conçus dès le départ pour ces consoles. Donc si vous espériez quelque chose de définitif, ce n'est pas encore le cas. Quelques petites news supplémentaires, là encore, sur les deux consoles. Je vais aller vite. Horizon Forbidden West sortirait sur PlayStation. On va faire d'abord PS5 et puis Xbox. Horizon Forbidden West sortirait deuxième moitié de 2021. Les autres jeux présentés dans la dernière promo, Gran Turismo, Returnal, Ratchet & Clank, ça serait première moitié de 2021. On ne peut pas ajouter du stockage à la PS5 tout de suite. Il faudra attendre une mise à jour du système. Donc le port existe bien pour ajouter un SSD supplémentaire, mais il n'est pas encore disponible. Et on n'a que 667 gigas, pas 666. Ils ont dû travailler très dur pour s'assurer que ce ne soit pas 666. 667 gigas de stockage disponible sur le SSD de la PS5 contre les, je ne sais plus, 825, je crois, de base, une fois que le système est installé, ça bouffe une bonne partie. Pity, la démo n'est pas disponible sur PlayStation 5, elle ne tourne pas. Donc si vous avez une PS4, est-ce que Emric ou SK, vous avez une PS4 avec Pity dessus
ou pas? Tout à fait.
Oui, très bien, moi aussi. Moi, je l'ai gardé.
PS4 old gen, pas la pro, donc, mais, ouais, mais évidemment, j'ai gardé la PS4 spécialement pour. Enfin, j'exagère un peu, presque que pour ça, quoi.
Ouais, pareil, ça va être des reliques dans 50 ans quand on sera plus là pour en profiter.
Ça va valoir des millions, Patrick. Des millions. On arrêtera de travailler, c'est fini après. Des millions.
On ne peut pas stocker de jeux PS5 sur un périphérique USB. Ça sera possible que plus tard encore. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment cravaché comme des
fous. Un peu.
Ouais, et qu'ils se sont dit, alors, est-ce que cette feature, elle est essentielle? Non, ok, on verra après. Vas-y, bosse sur les autres trucs. Ouais.
Surtout s'ils peuvent le corriger de façon logicielle, ils auraient eu tort de se priver.
Si quoi, pardon?
Surtout s'ils peuvent régler le problème de façon logicielle, ils auraient eu tort de se priver.
Oui, c'est ça. C'est des trucs qui seront mis à jour dans le système avec les versions à venir de l'OS. Spider-Man, finalement, on pourra importer sa sauvegarde de Spider-Man PlayStation 4 sur PS5. Donc la version PS4, on pourra l'importer, la sauvegarde. Ce qui fait que moi, je vais peut-être du coup acheter, si un jour j'ai une PlayStation 5, Dieu sait si ça arrivera, peut-être que moi, je vais l'acheter la version remastered. Quoi d'autre? PS5, Blood and Truth, qui est un jeu PlayStation VR, il sera amélioré, il aura un patch PS5, ce qui est intéressant parce que on ne savait pas si les jeux PlayStation VR auraient des améliorations sur PS5. Et ben au moins celui-là, on ne sait pas si les autres suivront le même chemin, mais au moins celui-là aura une version optimisée PS5 avec meilleur framerate, meilleure qualité de texture, etc. Donc c'est pas tellement important pour Blood and Truth lui-même, mais pour les jeux PSVR en général, peut-être qu'ils seront améliorés sur PS5, c'est plutôt un bon signe. Voilà pour les petites news PS5, les petites news Microsoft. On a encore des rumeurs selon lesquelles Microsoft serait en train de chercher à acquérir un studio japonais, donc ça semble se confirmer. Star Wars Jedi Fallen Order arrive sur l'abonnement EA Play, ce qui veut dire qu'il est également disponible sur le Game Pass Ultimate. Il ne faut pas oublier que
les jeux... C'est complètement fou, en fait.
C'est dingue, hein. Moi, je suis allé dans le Game Pass, et puis enfin, dans le catalogue Game Pass sur la console, et j'ai fait « Ok, toi, je t'installe. Toi, je t'installe. Toi, je t'installe. Toi, je t'installe. » Toi, c'était genre des... Je swipe... c'est gauche ou droite pour dire qu'on aime? Je ne connais pas, moi, ces trucs-là. Donc, attention, hein, c'est un piège. Si vous répondez, vous êtes...
Je crois que c'est droite.
Ah, c'est bien. Je crois que c'est droite. C'est bien. Bien joué. Donc, je swipe droite sur différents jeux. C'est, bon, les merveilles du Game Pass. The Medium, par contre...
Hein, tout ça. C'est important ça, hein. C'est clair. Faut le dire, hein, tu sais ça. On a quand même des consoles là qui sortent et dont certaines versions n'ont pas de lecteur. Donc c'est sûr que la prochaine, c'est foutu les mecs. Hein. C'est fini là.
C'est clair. C'est
fini. Et puis là, les derniers jeux ajoutés au Game Pass, ils se sont lâchés. Il y a quand même des très très bons titres.
Moi je pense c'est que sûr. Microsoft fera pas d'autres machines. Tu vois, c'est pour te dire.
Donc, tu crois ? Écoute, on verra dans quelques années.
À mon avis, ils sont rentables avec le Game Pass, donc pourquoi s'embêter en fait ? Ils vont foutre le Game Pass chez partout, chez les concurrents moi, aussi, et puis terminer.
Quoi. Oui, mais il faut que les concurrents acceptent, tu sais, c'est ça le truc. Moi, je pense qu'ils vont continuer. Moi, je pense qu'ils vont continuer et faire... Peut-être qu'on aura dans 4 ans une Xbox série XX ou XL. Bon, bref. On a aussi, quoi d'autre ? The Medium, qui était l'un des jeux qu'on attendait exclusif sur Xbox, et ben, il est repoussé à 2021, malheureusement. Si vous avez le Game Pass Ultimate, mais pas en France, vous pouvez avoir 30 jours sur Disney+, ok ? C'est sympa. Quoi d'autre ? On l'a dit, les vidéos de fumée qui sortent des Xbox, c'est du faux, donc vous inquiétez pas trop. Et quoi d'autre ? Oui, au lancement, le Xbox Live a été complètement... on me dit dans la chatroom que Phil Spencer a dit que c'était pas vrai qu'il cherchait à acheter un studio japonais. Vous me désolez, messieurs, visiblement c'est pas le cas, mais c'est triste. Moi j'aimerais bien avoir des studios japonais dans le Game Pass.
Square Enix.
Et donc, oui, le Xbox Live a complètement sauté au moment du lancement. On pouvait s'en douter. Imaginez que ça va être 10 fois pire avec la PlayStation. Hein. Le week-end, heureusement, c'est décalé entre les États-Unis et l'Europe. Mais je pense quand même qu'au moment du lancement, la semaine prochaine en Europe, ça va exploser. Donc, le week-end, le premier week-end, faudra pas trop espérer jouer sur la PlayStation en ligne, on va dire. Et puis quelques news qui n'ont rien à voir ni avec les PlayStation ni avec les Xbox. Fortnite pourrait revenir sur iOS avec un partenariat avec Nvidia, GeForce Now, donc en streaming. Ça serait assez drôle que Nvidia permette à Epic de revenir sur iOS, mais par le web, en streaming. Ça serait assez logique, en fait, mais bon, on va voir si ça va arriver. BioWare a confirmé l'arrivée en 2021 d'une trilogie Mass Effect légendaire, donc remasterisée, pas remakée, et ils travaillent aussi sur un nouveau Mass Effect, ce qui est quand même cool. Dans la trilogie, on n'inclut pas Andromeda, hein, c'est juste les trois premiers. Vous allez vous jeter
dessus. Pas très grave.
Ouais, c'est pas un mal, hein. c'est peut-être même une bonne nouvelle en
c'est
fait.
C'est ça la bonne nouvelle, ouais, elle a raison, Escarina, c'est ça.
D'accord. Ah non, alors attendez, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il est pas en train de distribuer des cartes pro à des studios japonais, mais qu'il préfère planifier l'achat. Il n'a pas démenti un potentiel achat de studios japonais. Merci TTTH. Bon, on sait toujours pas, mais on espère. Et oui, Vince demande, est-ce que le streaming pour Fortnite serait autorisé par Apple ? Ben, ils n'ont pas le choix, parce que c'est simplement une page web. C'est ça le truc. Donc ça passe par une page web et tu peux streamer le jeu. Alors ça serait un truc dédié que tu peux installer en tant qu'app web, mais ça, c'est Apple qui n'a pas son mot à dire là-dessus. Donc ça, c'est une bonne chose pour Fortnite et pour Epic, c'est exactement comme Luna, voilà, comme le service de streaming d'Amazon, tu as tout à fait compris. Et donc vous me disiez, pardon, est-ce qu'on a besoin d'une trilogie Mass Effect ? C'est le moment, c'est saturation de trilogie, pardon, saturation de remake, ou de remaster plutôt ?
Non, on n'en a pas besoin, mais on a besoin de jeux manifestement.
est-ce que vous l'achèteriez, vous ?
Non. Bah après avoir déjà fait les 4 sur PC, je vois pas trop l'intérêt de les refaire, à moins d'être complètement accro, mais...
Ouais, bah c'est moi c'est pareil, je les ai aussi, je vais pas m'y remettre, mais c'est surtout que il faut agrandir les catalogues plus vite, quoi. Donc parce que oui, ces consoles, c'est top, c'est le confort et tout, mais en vrai, il n'y a pas de jeu. Pas de nouveaux jeux.
Écoutez, là, ça va arriver en l'été, enfin, à milieu de l'année prochaine, donc c'est pas pour tout de suite, mais la chatroom a l'air de dire « Ouais, Day One, moi je le veux, moi je l'ai jamais fait, donc je le veux. » C'est vrai qu'il y a plein de gens qui
ne l'ont jamais fait, oui.
Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui les ont peut-être pas fait. Et c'est vrai que même si les derniers épisodes ont été controversés, c'est quand même une série qui est assez légendaire, hein, la série des Mass Effect. Et bon, donc,
c'est compliqué de refaire aujourd'hui le 1 et le 2, hein, on va pas se mentir. Mmh. Techniquement, c'est compliqué quand même. Ça a pris un gros coup dans les dents quand même.
Et la version remasterisée, je pense que ça va être genre augmentation de résolution. Et encore, sur PC, tu peux mettre la résolution que tu veux, j'imagine. Mais je suis pas sûr qu'il sera beaucoup plus beau, quoi. Il va pas être modernisé, en tout cas.
Bah, écoute, tant pis alors. Mais le premier aujourd'hui, moi j'y retouche plus. Hein. Je peux pas. Visuellement, je peux pas.
Ah, les balades en Mako, ça va vous dégoûter de la série, alors que c'est vachement bien, quoi. Je déconseillerais de refaire le premier, ça quand même. Bien visuellement, mais au niveau du gameplay, c'est quand même un peu hardcore aussi. C'est un peu comme The Witcher, tu vois, les gens qui veulent se lancer dans The Witcher et qui disent « Mais alors, est-ce que je commence par le 1 ?» Non.
Surtout pas.
Bon, écoutez, on a un avis clairement divisé entre la chatroom et mes invités, donc on laissera les chiffres parler au moment de la sortie, on verra si ça se vend bien. Dernier petit truc, si vous êtes YouTube Premium, et là encore, je crois que c'est pas le cas, c'est peut-être le cas en France, mais pas en Finlande, vous pouvez recevoir un bundle Google Stadia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une manette Stadia et une Chromecast Ultra. Donc, si vous êtes YouTube Premium, vous pouvez peut-être choper ça. Au pire, vous l'utilisez que pour avoir la Chromecast Ultra, mais allez checker ça. Je ne sais pas si c'est dispo en France, mais vous pouvez aller regarder. Et toujours du côté de Disney+, les joueurs de Fortnite qui achètent quelque chose dans Fortnite vont avoir un mois de Disney+. Là encore aux États-Unis, Disney+ fait décidément une sorte d'attaque incroyable marketing, ce qui est là encore pas très surprenant. Je crois que c'est à peu près tout sur les news. On a été vite sur la fin.
Je voulais juste dire que j'ai acheté Stadia Day One. Hein. J'ai laissé tout ça en place pendant un mois. Et puis depuis, j'ai tout rangé. Hein. J'ai la boîte comme neuve, nickel. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un bon plan du coup d'aller chercher. Mais voilà, je préfère prévenir. Hein. J'ai rangé tout, hein, le Chromecast, la manette, tout. Voilà.
Mais pareil. Mais YouTube Premium, les abonnés YouTube Premium, ils ont droit gratuitement à ce bundle.
Ouais, tu vois, bah, ça va juste faire une boîte pour poser des trucs dessus. Quoi.
C'est vrai. J'avoue, oui. C'est pas très éco-responsable de le récupérer. Moi, c'est un petit peu pareil. Hein. Mais bon, t'en as pas besoin. Tu peux jouer sur PC directement avec Stadia. Donc,
tout à fait, évidemment. Le truc aussi, c'est que je suis sûr qu'il y a encore des gens qui n'ont pas forcément tout le matériel, je sais pas, un PC, deux consoles, etc. Donc, je peux comprendre que ça touche certaines catégories de joueurs. Mais c'est vrai que globalement, ça ne peut pas faire concurrence aux autres acteurs du marché aujourd'hui. C'est ça.
On est d'accord. Ça, c'est sûr. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a d'autres news que vous vouliez couvrir ? Il y a quelques petits trucs qu'on pourrait évoquer, mais je crois qu'on a fait l'ensemble.
Il y a Genshin Impact qui a eu sa première mise à jour, très important.
Ah, je me disais, mais c'est ton truc Genshin Impact. On en parle régulièrement, il est assez inévitable vu son succès. Mise à jour, super intéressante alors ?
Bah c'est très intéressant. Au-delà de la mise à jour, en gros, c'est des nouveaux persos et un nouveau système de réputation. On va pas rentrer là-dedans vu qu'on n'a pas parlé du jeu là. Le truc qui est important avec Genshin Impact, c'est pas tellement le jeu en lui-même, c'est ce qu'il représente, c'est le fait qu'il soit multi-support, qu'il soit gratuit, qu'il soit hyper bien fait pour un truc gratuit en fait. Ça fasse penser à un jeu mobile alors qu'en fait c'est un jeu tout à fait triple A dans son design et dans l'argent et la technologie qu'ils ont mis dedans. Mais c'est surtout que c'est vraiment le jeu cross-support par excellence. Et que forcément, ça va être l'avenir, en fait. Et même la manière dont le jeu est construit, en fait, tu as des moments où tu vas être très content de le jouer sur iPad, comme il y a des moments où tu vas être très content de le jouer sur ta PS4 ou sur ton PC avec une manette. Et c'est ça qui est très intéressant dans le jeu. C'est pour ça que je voulais en parler vite fait.
Voilà. J'avais cru comprendre que, oui, on en parle depuis des mois hein, de Genshin Impact, il est absolument inévitable, mais j'avais cru comprendre que la version PS4 était ségrégationnée, qu'elle n'était pas
oui,
crossplay.
Oui, oui.
Non, je veux dire qu'elle est pas crossplay avec les enfin cross save pardon avec les versions mobiles. D'accord. Donc ton perso
confirme,
il va pas te suivre.
Exactement. Moi j'ai choisi de jouer sur PC et sur les devices mobiles en fait, donc soit le téléphone ou l'iPad. Et très honnêtement, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tu y a des pans de jeu entiers, comme par exemple tes quêtes quotidiennes, des choses comme ça que tu apprécies de faire sur certains supports. Et c'est ça qui je pense va définir la construction de certains types de jeux à l'avenir, en fait, si c'est des jeux qui sont cross-support. Mais vraiment, ce jeu, plus que son intérêt en lui-même, c'est ce qu'il représente pour l'avenir. À mon avis, c'est un gros, gros pas sur ce que va être l'avenir du jeu vidéo, en tout cas une bonne partie, je pense.
Très possible. En tout cas, on va avoir d'autres exemples de trucs comparables. Bon, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir accompagnés, enfin de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure du rendez-vous de jeu 160. Avant de se quitter, évidemment, j'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver. Commençons par notre invité de marque, Aymeric Lallet. Où peut-on te retrouver sur Internet ? Allô ? On ne peut pas te retrouver. Il a disparu encore une fois.
Prochainement, c'est... Bah tant pis, voilà.
Mais si, vas-y, vas-y, on t'avait perdu, mais tu es revenu.
Ok, moi je disais sur Twitter, mais sinon vous pouvez me voir, on va dire une fois par semaine au journal de jeuxvideo.com, entre 8h30 et 14h30 tous les jours de la semaine, on fait un journal, et du coup j'y passerai de temps en temps pour faire une rubrique goodies, tu vois, je vais m'occuper de ça en ce moment.
Très sympa. Merci beaucoup, et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Eska, où te retrouve-t-on ?
Ici, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Twitter, @escarina_, chez les amis de Super Gamerside, même si là, avec le confinement, tu sais qu'on enregistre d'habitude dans la cave de notre host, du coup, c'est un peu plus compliqué. On est en train de voir de se fournir en micro pour faire comme toi ici à distance. Et puis sinon, sur mon site d'actu dont tu parlais tout à l'heure, Kiss My Geek, voilà. Voilà, voilà.
Magnifique, et pour retrouver tout ça, c'est sur Twitter, on a le lien dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com, y compris la chaîne YouTube, où je vous ai fait une petite vidéo où il y a tout en 2 minutes par console, les points forts et les points faibles de chaque console. C'est sur youtube.com/NotePatrick. Et puis bien sûr... Vous pouvez trouver également le meilleur moyen de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Comme je le disais tout à l'heure, l'émission se termine. Donc, c'est le moment de lancer votre navigateur patreon.com/rdvjeux. Et là, vous pouvez voir les bonus qui sont disponibles, les options pour soutenir et le fait surtout d'acquérir la fierté. La fierté, messieurs, dames, de soutenir l'émission et de faire partie des courageux, des forts, des héros qui lui permettent d'exister. Donc, si cette description vous correspond, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et regarder tout ça. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec plus de nouvelles sur la PlayStation 5, peut-être. Est-ce que Patrick va l'avoir ou pas ? A priori, non.
On peut le souhaiter.
Qui sait ? Un miracle, peut-être. J'ai besoin d'un miracle, messieurs, dames. C'est pas beaucoup demandé.
Je vais t'envoyer de l'argent sur Patreon.
Écoute, mais c'est même pas une question d'argent. C'est même pas une question d'argent, Aymeric. Vous savez quoi ? Si on me propose un miracle, est-ce que je vais choisir de régler la question du changement climatique ou d'avoir une PlayStation 5 ? Je suis pas sûr. Réponse dans une semaine.
C'est moche.
Allez, à dans une semaine. Ciao à tous.